La radiodiffusion française vous invite à écouter.
Frison Roche.
Vous savez, ici, je suis le guide, je suis le montagnard, je me promène et nous sommes dans un pays où il n'y a pas de caste sociale. Moi, vous comprenez, le cantonnier qui me rencontre dans la rue me dit « Bonjour Roger, comment vas-tu » Ici, je ne suis pas Frison l'écrivain, Chamonix. Je suis Frison, tout simplement.
Il avait été une figure de Chamonix dès les années 30. Il le redevient autrement à son retour définitif dans la vallée à partir de la fin des années 50. C'est une époque bénie pour l'alpinisme. Les premières sont moissons, l'Everest est vaincu. Les héros à qui s'identifier sont nombreux. Parmi eux, Frison Roche se distingue. Dès l'avant-guerre, il est connu. Son premier de cordée, un livre en 1941, un film en 1943, est un long-seller. C'est un conférencier aussi infatigable que demandé, qui racontera d'ailleurs l'importance des campagnes de connaissance du monde dans les provinces, projection d'un film, dîner à la préfecture et tournée des grands-ducs dans les bars. Surtout, Frison Roche écrit des romans et cherche ses modèles très haut. Son auteur fétiche est le grand écrivain vaudois Ramuse. Frison veut sortir le roman de montagne du roman de genre, mais il traite aussi et presque autant du désert dès son premier livre, L'appel du hogard. Le défi ici est de sortir le roman saharien du style colonial. La piste oubliée lui paraît être sa meilleure réussite dans le domaine. Entre deux routes, il faut toujours choisir la plus difficile, disait-il. Il a toujours voulu persuader ses lecteurs que les bons sentiments peuvent faire de bons bouquins et il y est parvenu. D'ailleurs, après un moment d'oubli, Frison Roche est mort en 1999, il commencerait à revenir en grâce aujourd'hui.
La marche de l'histoire, France Inter. Jean Lebrun.
Avec Antoine Chandelier, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter au Dauphiné libéré, mais vous avez occupé pendant 10 ans un poste à très haute responsabilité. C'est un peu l'équivalent de correspondant permanent de la Croix à Rome. Vous avez été correspondant du Dauphiné libéré à Chamonix.
Oui, c'est ça, c'est un autre temple.
Oui, parce que c'est une capitale, Chamonix. Il se trouve que le hasard m'a fait retrouver un livre paru l'année dernière, Chamonix. Libéré, que vous avez préfacé et qui est constitué par le fond photographique de votre prédécesseur qui s'appelait La Marmotte.
Oui, Philippe Gossot. C'était mon illustre prédécesseur. C'est lui qui, après-guerre, a créé l'agence du Dauphiné Libéré à Chamonix et a été l'observateur de ce site unique pendant 30 ans.
Et alors, vous dites en préface, oh là là, il faut regarder où on met les pieds quand on s'approche du bord et qu'on est journaliste à Chamonix.
Oui, c'était mon directeur de l'époque qui m'avait dit ça, qui avait connu Gossot et qui connaissait l'histoire moderne de Chamonix et le tempérament des chamoniards très indépendants.
Enfin, il faut satisfaire les chamoniards, donc je vais dire que vous rentrez d'une équipée avec les pisteurs des grands montais, ils se reconnaîtront. Mais on est ici surtout pour parler de votre livre sur Frison Roche, que vous faites paraître chez Artaud, maintenant devenue filiale de Flammarion, mais qui est la maison de Frison Roche, pas sa maison natale. Il est né à Paris, mais il allait le plus souvent possible dans son enfance, dans le Beaufortin, et il s'est installé à 17-18 ans à Chamonix.
Oui, c'est ça. Les hasards de la vie l'ont mené à Chamonix. Un hasard qu'il a forcé, parce que il avait toujours la nostalgie de son Beaufortin. C'est là où il passait ses vacances d'été. C'est là où, pendant les années de guerre, il a été placé aussi. Et c'est là où sont ses racines.
À Chamonix, il s'insinue là où il peut. Il est secrétaire du syndicat d'initiative. Le vieux Ravanel le Rouge fait ses dernières courses. Alors il devient son porteur. Il veut se rendre utile.
C'est tout le génie de Frison Roche, de savoir s'adapter partout où il va et de s'adapter à toutes les sociétés. Il arrive, il a 17 ans, il a sa petite valise, il n'a pas fait d'études. Il est un petit peu homme à tout faire au syndicat d'initiative. Chamonix a obtenu l'organisation des premiers Jeux Olympiques d'hiver. Frison Roche rameute toutes les bonnes volontés dans la vallée. Il faut déblayer la grande patinoire ensevelie sous la neige. C'est Frison Roche, voilà.
Si j'ai bien compris, il avait un certain goût pour les débits de boissons. Il est d'ailleurs mort dans un débit de boisson. Enfin, l'attaque l'a touché dans un débit de boisson, mais il a tenu lui-même à Chamonix. Vous n'avez pas fait ça, vous ?
Il est même né dans
la brasserie de la Poste.
Il est même né dans une brasserie, puisque ses parents étaient exilés savoyards et tenaient une brasserie à Paris. Son père est mort d'une cirrhose, hein, il le dit aussi. Mais après, Frison, oui, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans les bistrots parce que c'est un vrai journaliste au fond et qui sait que c'est un endroit où on va chercher des informations, où on croise des gens. Et il avait une consommation d'alcool, je dirais, très conviviale. Voilà.
Alors, 1930, il devient guide, il est professeur, moniteur de ski et avec Frisonnette,
ben oui, c'était ça, son épouse, ouais. Marguerite.
Grand Sifflet, c'est son surnom.
Grand Sifflet, oui, c'est le surnom que lui a donné un de ses formateurs, Armand Charlet.
Apprend par un coup de fil qui lui est donné, j'imagine, Brasserie de la Poste, qu'en 1934 se dissimule dans la vallée Stavisky. Alors, il est correspondant du Petit Dauphinois, le quotidien local. Il se précipite. On va entendre un extrait du film de René sur Stavisky, janvier 34. Belmondo interprète le grand Serge, Monsieur Alexandre. Et vous allez entendre, si vous avez Louis Fine, un rôle important qu'a joué dans cette affaire Frison Roche.
Allô, le cabinet du ministre ? Ah, c'est vous, mon cher. Véricourt à l'appareil. Oui, j'ai le renseignement, c'est à Chamonix, en effet. Le numéro de téléphone est le 319. S'il se croit perdu, il est capable de se tirer une balle dans la tête. Oui, une maladie de famille, comme vous dites. Oui, il est armé, bien sûr. Au revoir, mon cher. Mes respects, monsieur le ministre.
Tout à l'heure, tu vas louer des places dans le train de nuit pour Paris.
Paris ? Mais Paris, c'est la prison, monsieur Alexandre.
Et ici, c'est pas la prison ? Je remonte à Paris. Demain matin, je convoque les journalistes. Je raconte tout ce que j'ai à raconter. Ça va faire du joli. Tiens, je vais faire une déclaration à la radio. Au poste de la Tour Eiffel. Toute la France m'écoutera.
Il faut que je descende au village, monsieur Alexandre. J'ai des billets à prendre.
Alors vous me direz où est le rôle de Frison Roche ? Eh bien, c'est les coups dans la porte !
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Frison Roche, c'était un petit journaliste localier hein, à Chamonix. On est en 1934, il n'a pas encore écrit de livre, et il est correspondant local pour le Petit Dauphinois. Alors Grenoble l'appelle, les faits diversiers, les fins limiers du journal ont eu des informations sur lesquelles Stavisky se cache dans la vallée, et on envoie Frison croiser ses contacts sur la piste de Stavisky.
Et alors, il découvre la villa où il est caché, la première villa où il est caché, il frappe à la porte et ça va convaincre Stavisky que les échéances sont là. Et il sera encore après le suicide dans la salle d'opération, là où on essaie de ramener Stavisky à la vie.
Ben, Frison, c'est le bon localier, c'est-à-dire qu'il a tous les contacts. Il se trouve qu'il faut un médecin pour soigner Stavisky, pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Et ce médecin, c'est le camarade du secours en montagne avec qui Frison a participé à de nombreux sauvetages. Donc,
votre livre, Antoine Châtelier, insiste assez souvent sur les positions politiques de Frison Roche. Je vais vous lire une citation. Ce que j'avais vu de la Troisième République finissante, l'affaire Stavisky déclenche les émeutes du 6 février 1934, m'avait enseigné qu'il n'y avait rien en elle à aimer, rien à espérer non plus. La Troisième République finissante se nourrissait de sa décadence. Signé François Mitterrand. Mais ça pourrait être signé Frison Roche aussi.
Oui, a posteriori, Frison Roche, cette Troisième République, il s'est bien senti, puisque... il a fait plein de choses, c'est le moment où il découvre le monde, mais il est bercé de plein d'illusions, et c'est vrai que avec la guerre...
Avant même la guerre, vous dites qu'il était membre des volontaires nationaux du colonel de la Roque.
Oui, mais Frison Roche est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui apprend à l'école de la vie, donc il découvre tout ça, il peut faire des erreurs, et au fil de l'histoire, il se rend compte de la réalité du monde.
Mais François Mitterrand avait fait des études, et ça ne l'empêchait pas d'appartenir à des mouvements d'extrême droite dans la Troisième République finissante, vous savez.
Mais c'est vrai que pendant la guerre, on va avoir un petit peu le même parcours.
Alors 1935, restons encore en deçà de la guerre, si vous le voulez bien, le voilà parti, avec entre autres un officier de chasseurs alpins, Koch, et puis le cinéaste Marcel Ishak pour le Sud saharien, où les Touaregs lui disent, un petit peu comme les Chamoniards devaient le dire d'ailleurs aux Genevois au XVIIIe siècle, cette montagne-là en face de vous, faites attention, elle est maudite.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les peuples de montagne. Hein. La montagne, même Il y a 300 ans à Chamonix, le Mont Blanc, c'était le repère des démons. On n'y allait pas, on en avait peur. Dans d'autres civilisations, c'est le repère des dieux, au Tibet notamment. Et là, c'était le cas pour la Garrett El Jenoun. Et donc, quelque part, ils vont briser une croyance chez ces populations locales.
Les Touaregs ne les accompagnent pas en haut.
Non, parce qu'on ne rentre pas dans le sanctuaire. Et à leur retour, les Touaregs vont leur dire bah, si vous êtes allés tutoyer les dieux quelque part, donc peut-être vous-même vous êtes des dieux, donc il y a une certaine admiration derrière chez les Touaregs.
Récit par Frison Roche au micro de Marion Thibat beaucoup plus tard. L'épisode date de 35, l'interview de 86.
J'étais un guide à plein temps et j'ai été choisi comme guide pour l'expédition du Hoggar. Et si j'avais reçu un premier choc en arrivant à Chamonix en 23 en voyant la montagne, je vous avoue que lorsque j'ai découvert le Sahara pour aller faire la Garrett El Jenoun, ça a été pour moi un choc extraordinaire, une découverte de monde nouveau. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas le Sahara du Paris-Dakar. D'abord, on descendait comme on pouvait sur des camions, et puis l'importance du raid, on a fait 1500 km à d'autres chameaux. Alors, j'ai découvert la marche lente dans le désert, et puis en plus de ça, le massif de la Garrett El Jenoun, la montagne des génies, était vraiment un massif interdit à l'époque que les Touaregs n'avaient pas pénétré parce que c'était une montagne de légende. Et ils nous ont laissés à la porte de cette montagne qui est un massif grand comme la Chartreuse. Et ma foi, il a fallu découvrir tout dans un monde inconnu. On se savait vraiment très loin de tout. Et enfin, quand on est arrivé au pied des rochers de la Garrett, il y avait quand même là des passages qui étaient des passages de 5 à gravir avec les moyens que nous avions emportés, sans eau, parce qu'on manquait d'eau, il avait tout porté sur son dos, il fallait revenir ensuite. J'ai gardé de ça, évidemment, une impression absolument inoubliable, et sur ce petit sommet de 2300 mètres d'altitude, j'ai découvert l'immensité du Sud.
Presque autant de livres consacrés par Frison Roche au Sahara que de livres consacrés aux Alpes, et le premier, l'appel du Hoggar.
Oui, je crois que si on fait même la somme des livres consacrés au désert et de ceux qu'il a écrits sur les déserts glacés, l'Arctique, la Laponie, on est même au-delà des livres qu'il a écrits sur la montagne.
L'appel du Hoggar, c'est un livre... Alors, de temps en temps, vous utilisez un oxymore un peu curieux, le colonialisme humaniste.
Ben, oui, ça fait partie aussi des illusions qui ont bercé un peu Frison Roche, hein, et qui avec la guerre d'Algérie aussi vont éclater.
L'appel de l'officier méhariste. Le chameau.
C'est vrai que le désert et la première expédition qu'il fait donc au Hoggar avec la Garrett El Jenoun correspond avec sa vocation d'aventurier. C'est là où il fait son premier grand voyage et c'est là où il va écrire son premier grand livre, l'appel du Hoggar. Donc il va y avoir la double vocation, l'écrivain et le voyageur.
L'ermitage du père de Foucault. Il y a tout ça dans son imaginaire.
Mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Internet. Frison, qui était un enfant qui a dû travailler très tôt, adolescent, il s'est évadé par les livres. Et tout ça, c'était l'imaginaire de son enfance. Les expositions au Musée de l'Homme, ses lectures, c'est...
Mais l'attrait de l'Afrique du Nord est tel qu'il va quitter Chamonix en 1938, vendre la brasserie, devenir correspondant pour la Dépêche algérienne. Et c'est d'ailleurs dans la Dépêche algérienne que paraît en feuilleton Premier de Cordée, début 1941. Alors, Premier de Cordée, long-seller, on en a vendu des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires. C'est quoi le thème ?
Le thème, c'est la découverte d'une vocation. C'est la découverte de l'amour de la montagne et qu'on peut en vivre et qu'on peut en mourir aussi. Ce livre, c'est un véritable manifeste. C'est pour tous les montagnards. Jamais on n'avait rendu palpable la notion de vertige, la notion de responsabilité. Le premier de cordée, c'est devenu une expression qui est passée dans le langage courant. Frison fait revivre les débuts de sa vocation alpine. Comment il va devenir guide ? Et en fait un roman. Il anime tous les personnages qui l'ont entouré à l'époque.
Mais le vertige, ça peut se vaincre. C'est une affaire de volonté.
Et c'est toute cette histoire qui transparaît dans Premier de Cordée.
Mais je vous lance sur la montagne éducatrice, parce que vous insistez aussi sur cela dans votre livre, Antoine Chandelier. C'est un thème que Vichy, qui accorde la plus grande importance aux Alpes, va reprendre l'homme régénéré par l'ascension.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre, les valeurs sont un peu considérées comme passéistes aujourd'hui, mais c'est des valeurs qui finalement sont universelles. Le courage, l'autorité, c'est vrai, l'autorité du père qui ne veut pas que son fils devienne guide, qui veut qu'il soit hôtelier. Ces valeurs vont être récupérées. Alors que Frison Roche a écrit ce livre de manière totalement, je dirais, naïve. Il n'y a pas de message politique dans Premier de Cordée. Mais dans un contexte à l'époque où il faut redonner le moral à une certaine jeunesse, le moral et une morale aussi.
Beaucoup de moyens vont être donnés pour une adaptation cinématographique en 1943 de Premier de Cordée qui va être présentée à Vichy en présence de la maréchale le 22 janvier 1944. Mais notons tout de suite, on va y revenir dans un instant, que c'est un futur cinéaste officiel du PC, Louis Daquin, qui est le réalisateur, et que si Frison Roche participe au tournage, c'est clandestinement, sans que son nom n'apparaisse en tout cas au générique.
Madame, la peur, c'est comme le vertige, faut tous y passer. Et ceux qui viennent vous dire qu'ils n'ont jamais ressenti, des menteurs ou des oublieux.
Le vide, une rigolade. Le vertige, ça se commande, monsieur. Faites comme moi de la volonté. Voyez comme j'y vais. Je veux sortir de là. Je veux sauver ma peau. Attention, monsieur, la montagne est folle.
Ici, plus de trompe-l'œil. Dans la vallée de Chamonix, c'est un effort unique dans son genre qui est réalisé par les techniciens et les artistes de Premier de Cordée. Partant tous les matins du refuge du Couvercle à 2400 mètres, l'équipe grimpe le matériel jusqu'à 3500 et 4000 mètres d'altitude. On tourne. À vous, Maurice Paquet.
Et allez donc.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
2-8.
Dans le livre Chamonix libéré, qui recense une partie du fond photographique de votre prédécesseur Otto Finet libéré dans l'agence de Chamonix, Gossot, des photos de Maurice Baquet nombreuses, et on voit qu'il est accompagné de son violoncelle qu'il a surnommé Cérébos. Et ici, je ne sais pas comment il faudrait nommer Boccherini, tel qu'il a été poivré par Maurice Baquet. Alors nous parlons de Grand Sifflet. Grand Sifflet, c'est Frison Roche, auquel vous consacrez une biographie aux éditions Artaud, Antoine Chandelier. Comment est-il arrivé, quasi clandestinement, même s'il y a beaucoup de photos de lui sur le tournage, en 1943, à Chamonix, par Louis Daquin? Une aventure incroyable.
Ah oui, c'est une très très longue histoire. Disons que Frison, au début de la guerre, est allé combattre avec les chasseurs alpins. Il y a eu l'armistice, qui l'a beaucoup meurtri d'ailleurs, puisque l'armée des Alpes n'avait pas perdu. Donc il reprend son poste à Alger, de grand reporter à la dépêche algérienne. Et lorsque les Américains arrivent sur le continent, lors du débarquement, il va sur le front couvrir l'avancée américaine contre Rommel.
Donc aux côtés des Américains.
Voilà. En tant que reporter,
oui.
Il est fait prisonnier, il est ramené en Europe. Donc il transite par plusieurs prisons, hein, Kairouan en Tunisie, Naples en Italie, et puis il arrive à Paris. Il arrive à s'échapper par des connaissances, je vous la fais courte. Et seulement Frison à ce moment-là a un problème et un vrai dilemme, c'est que en Algérie, son journal a une réputation péténiste, donc il a une étiquette entre guillemets péténiste, donc qui le dessert vis-à-vis des mouvements de résistance gaulliste. Et puis en même temps, il est recherché par les Allemands. Donc il va d'abord une première fois se réfugier dans la vallée de Chamonix, où les Italiens sont les réels ennemis avec les combats du col du Midi. Et puis très vite, les Allemands vont arriver après le tournage de Dakin. Donc là, il va une deuxième fois être obligé de trouver un nouveau refuge. Et ce refuge, ça va être le lieu de son enfance, de ses origines, le Beaufortin.
Et alors le maquis de l'armée secrète?
Et alors, arrivé dans le Beaufortin, chez ses cousins, il apprend qu'est en train de se tramer tout un réseau dans ce coin de Savoie qui est très reculé, hein, dans ce coin de Savoie qui était très meurtri par la Première Guerre, et donc où l'opposition à l'occupant est pas très franche. Hein, on a souvenir de cette guerre meurtrière de 14-18. Et Frison va peu à peu intégrer ce réseau clandestin. Il va appeler d'ailleurs le Beaufortin, le premier titre de son roman, c'est Le Pays Calme. Ça sera finalement Les Montagnards de la Nuit.
Alors c'est dans Les Montagnards de la Nuit que, tardivement, il raconte ce parcours que vous nous avez décrit en abrégé et dont le sommet, avec ses amis de l'armée secrète, du maquis de l'armée secrète, est un parachutage massif, le 1er août 1944, que racontent ici deux de ses camarades.
Cette journée du 1er août, pour moi, elle reste un des plus beaux souvenirs de mes 20 ans, parce que de cette armada de forteresses volantes et de chasseurs se dégageait un bruit énorme, un sentiment de force invincible, et on avait le sentiment qu'avec des alliés aussi puissants, jamais on ne pourrait perdre la guerre. On les a entendus d'abord, on les avait arrivés au-dessus de Crévolant. Là, ils venaient de la direction du commissariat à vie, ils sont passés au-dessus de nos têtes. Ils sont allés virevolter au-dessus d'Auclus. Et ils sont revenus et c'est là qu'ils ont commencé le largage, là-bas dans la plaine. Ils sont arrivés au fil des demi-heures, j'allais dire des heures, des compagnies, des sections qui venaient chercher leur armement. Et on peut considérer que tout au long de l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, des centaines et des centaines de résistances se sont succédées ici sur ce plateau pour toucher leurs armes. Elles étaient sorties des containers, alignées sur la prairie. Alors, il y avait beaucoup de mitraillettes Sten et il y avait des fusils.
Les Sentiers de la Liberté, une émission de Laurent Esposito. Dites-moi, à lire Les Montagnards de la Nuit, ces foutus communistes des FTP ont failli tout compromettre.
Alors ça, c'est la vision de Frison Roche, mais c'est vrai qu'il y avait deux ailes dans la résistance. Il y avait l'aile très, très virulente, on va dire. Hein.
Et bah puis, oui, puis avec un chef mesurée. Inquiétant, cruel, un révolutionnaire, écrit Frison Roche. Et puis, il y avait l'armée secrète, qui
tout
avait sa
fait.
Préférence.
Et justement, les Montagnards de la Nuit devaient agir en silence. Tout ce roman, en fait, explique la préparation de ce fameux parachutage où il ne fallait pas agir tout en n'éveillant pas l'attention des occupants.
Après la libération de Chamonix, le 17 août 44, il va retourner à Alger, d'où il fera beaucoup de reportages un peu partout en Europe et en Afrique du Nord. Il quittera l'Algérie en 1955. Il ne croit pas, dites-vous, aux perspectives de l'Algérie française. Il passe aussi beaucoup de temps à Nice. Il est un conférencier très reconnu, comme les Mahusier, comme Samy Vell, comme
oui,
Paul-Émile Victor.
Taziev, Paul-Émile Victor.
Il gagne sa vie comme ça et il gagne aussi de quoi faire des opérations et des expéditions. Et quand il revient à Chamonix, définitivement à partir de 1960, Chamonix s'est élargi.
Oui, alors après-guerre, Chamonix est devenu plus populaire qu'il ne l'était avant-guerre. Des routes d'accès vont se créer, bientôt une autoroute, des téléphériques pour gravir la montagne. Et puis
des
surtout,
cabines au-dessus des clarines.
Voilà.
Il aime plus ou moins.
Alors là aussi, il va évoluer. Au début, il est très réticent, un peu sanctuariste. Et puis finalement, il a bien compris que c'était le tourisme qui allait faire vivre ses vallées, les empêcher de mourir, comme jadis l'hydroélectricité et les barrages ont permis de faire vivre les Savoyards.
Il y a un grand moment à Chamonix qui opère dans les années 50 les noces fragiles du tourisme et des montagnards, c'est la fête de la Compagnie des Guides. Alors, il va jouer un rôle important dans cette fameuse Compagnie des Guides qui date de la Restauration et dont il devient finalement une sorte de doyen à partir des années 60.
Mais c'est-à-dire qu'avec son roman Premier de Cordée, il a tissé un petit peu la légende du métier de guide. Avant ça, le métier de guide était presque un métier subalterne dans les vallées. Et il a donné sa noblesse et ses lettres de noblesse à ce métier. Donc forcément, il en devient l'ambassadeur, le promoteur. Et il va même faire évoluer ce métier de guide, puisqu'il va devenir président du syndicat national des guides.
Oui, mais le problème avec cette démocratisation dont vous parlez, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus qui, avides d'exploits sportifs, travaillent sans guide. Les sans guide. Et pour Frison Roche, souvent, ils sont cause d'accidents. Deux très jeunes gens de 22 et de 24 ans ainsi vont mourir dans des circonstances fin 1956 que la France entière, que les reportages tiennent en haleine, va observer.
Le 27 décembre, Chamonix avait été alerté. Deux alpinistes, Vincent Don et Henri, se trouvaient en péril. Une tempête de neige noyait la montagne. Enfin, on les avait découverts à la jumelle, vivants. Depuis 4 jours et 4 nuits, ils résistaient à la neige et au froid. À la première éclaircie, les hélicoptères partirent. Mais en voulant atterrir, le premier se fracassait à quelques mètres des deux hommes en perdition. Il y avait maintenant 6 naufragés de la montagne. Dans la nuit, Lionel Terray, parti avec 4 compagnons par le chemin des Grands Mulets, était revenu sans avoir atteint son but, arrêté par une nouvelle tempête. On aurait pu, assurait-il, les atteindre 2 jours plus tôt par l'aiguille du goûter. Et il ajoutait, le sauvetage a trop tardé.
Je crois que c'est un problème moral. Tous les accidents de montagne, c'est d'abord une sorte d'éducation morale des jeunes ou des vieux qui vont vers la montagne, justement, de ne pas perdre de vue que la montagne est quand même une chose difficile, de ne pas perdre de vue que l'on a le droit de risquer sa vie intelligemment si l'on veut pour s'enrichir, mais qu'on doit toujours penser qu'il ne faut pas risquer celle de gens qui sont appelés à aller vous chercher.
Ici, il est avec Pierre Desgroupes dans Lecture pour tous. Pierre Desgroupes qui souvent l'a soutenu. Et il s'agit du livre Retour à la montagne où il est question donc des sans-guides.
Alors sans-guides, il y a 2 choses dans les sans-guides. Il faut savoir que depuis 1936, les gens ont des vacances. Donc il y a de plus en plus de monde en montagne, de plus en plus de pratiquants de l'alpinisme. Il y a un engouement populaire. Et puis après, il y a une rivalité entre les guides des vallées et aussi ces alpinistes grimpeurs qui se forment sur l'école de Fontainebleau et qui deviennent, à mesure, aussi forts que les guides. Et donc, ces alpinistes des cités, les Parisiens, les Marseillais, viennent aussi rivaliser avec les guides des vallées pour gravir les sommets qui sont encore vierges. Donc, c'est cette époque où la montagne devient un peu plus meurtrière, entre guillemets, parce qu'il y a plus d'accidents, parce que plus de pratiquants. Et forcément, il est de bonne guerre d'accuser un petit peu ces alpinistes qui veulent se prendre pour des seigneurs de la montagne.
Il ne faut pas non plus que le fossé se creuse. Les guides ne sont pas les ennemis des sans-guides. Enfin, il ne faudrait pas quand même que les sans-guides humilient les guides.
Voilà, c'est le côté patriotique, on va dire, de Frison Roche, corporatiste aussi. C'est vrai qu'il défend sa vallée, sa profession. Et il voit qu'il y a de nouvelles générations d'alpinistes qui se forment sur les falaises, sur les blocs qui viennent, alors plus ou moins armés, pour se mesurer à ces montagnes et puis essayer de leur piquer leur première.
Alors lui, il sait à partir de 1965 que ses moyens pour grimper sont diminués. Il y a quelque chose de pathétique quand même dans la fin de votre livre, Frison Roche, une vie, c'est chez Artaud, je le rappelle, Antoine Chandelier. Il est seul après la mort de sa femme, il fait la tournée des Grands-Ducs, il est sourd, il lui arrive d'enlever son sonotone, il est seul. Vous l'avez croisé, vous d'ailleurs, dans ces derniers moments, quand vous arriviez comme correspondant du Dauphiné à Chamonix.
La dernière année de sa vie coïncide avec la première de ma carrière de journaliste à Chamonix, oui, il faisait partie du décor, il faisait partie du paysage, Frison qui faisait sa promenade dans Chamonix, qui s'arrêtait de bar en bar, qui remontait chez lui. C'était le vieil homme qui essayait de retrouver ses souvenirs passés, qui perdait la mémoire.
De temps en temps, la statue montait dans un car. Dernière anecdote, il parle avec les chauffeurs de car.
Oui, c'est ça.
Et de temps en temps.
C'est ça. Il voyait le dernier champ d'exploration qui lui reste, qui n'en est plus un d'ailleurs, c'est sa vallée.
Et c'est de monter dans un car et de temps en temps, les chauffeurs me mettent en haut.
Voilà, c'est le voyage qui continue.
Oui, si vous voulez. Et il est mort en 1999, à quelques encablures de l'an 2000. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Henri Bérec à la technique, Franck Olivard, Martin Cellier, Linka Negulesco, Frédéric Martin pour la préparation.